entrer du bushman au Kasai oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est une de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue à votre émission Parole aux auditeurs, une émission 100% interactive où vous pouvez vous exprimer. Le monde célèbre chaque 1er décembre la journée internationale de lutte contre le VIH-SIDA. Les statistiques de 2008 montrent que plus de 42 millions de personnes sont infectées dans le monde, dont 72% vivent en Afrique subsaharienne. La RDC enregistre chaque année environ 162 000 nouveaux cas d'infection de VIH-SIDA. Elle comptait en 2008 1 230 000 personnes vivant avec cette pandémie et près de 10% de ces personnes atteintes décèdent chaque année, tandis que l'on comptait 430 000 orphelins du SIDA. Pour parler de cette pandémie qui fait des ravages, parole aux auditeurs selon sur deux questions. Quel regard faites-vous sur le VIH-SIDA dans votre milieu? Selon vous, que faut-il faire pour renforcer la lutte contre le VIH-SIDA et la prise en charge des personnes atteintes? Pour en parler, nous avons invité le docteur Jean Kabouaou. Il est chargé de l'appui aux initiatives communautaires du programme national multisectoriel de lutte contre le VIH-SIDA. Vos avis, propositions et questions sont attendues au cours de cette émission.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs. Composez le 081-99-77-800 par internet en écrivant à pa@radiocatholique.net.
Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette émission Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs parle du SIDA. Nous avons notre invité qui est déjà en ligne. Bonjour docteur Jean Kabouaou.
Bonjour madame.
Le docteur, vous êtes chargé de l'appui aux initiatives communautaires au programme national multisectoriel de lutte contre le VIH-SIDA, le PNMLS. La RDC enregistre chaque année environ 162 000 nouveaux cas d'infection du VIH-SIDA et compte à ce jour, bon, depuis 2008, 1 230 000 personnes vivant avec cette pandémie et près de 10% de ces personnes atteintes décèdent chaque année, tandis que l'on compte environ 430 000 orphelins du VIH-SIDA. C'était des chiffres que nous avons reçus de 2008. Et pour vous, docteur, quand même, ces chiffres sont assez inquiétants. Pourquoi cette progression?
Écoutez, la progression est tout à fait normale. Nous avons un pays qui mange, nous avons une très grande population. Et donc, la plupart de la population n'a pas reçu le message adéquat, souffre d'une insuffisance d'information. C'est la principale cause. Par ailleurs, il y a des zones, des régions qui ne sont pas touchées par le programme de lutte contre le VIH-SIDA.
Mm-hmm.
Et donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait progression de l'infection.
Oui, docteur Kabouaou, quand même, mais qu'est-ce que vous faites quand même? Le programme existe pendant un bon bout de temps, il est national. Comment est-ce qu'il y a certaines zones qui ne sont pas encore, qui ne connaissent pas ce programme, comme vous le dites?
Disons que le programme est connu, le PNMLS, le programme national multisectoriel, est connu dans toutes les 11 provinces. Nous avons des coordinations provinciales. Le programme national de lutte contre le SIDA, le PNLS, est aussi connu, il est dans toutes les provinces du pays. Mais la mise en œuvre, l'application donc au niveau du terrain, au niveau des prestataires de terrain, n'est pas encore arrivée donc à bout et nous sommes en train donc de continuer à vulgariser le programme.
Mais nous allons prendre une série d'auditeurs. Nous allons à la province de l'Équateur où se trouve Didier. Bonjour Didier.
Oui, bonjour Marie-Chantal.
Oui, Didier, vous nous appelez de Badolit. Dites-nous, quel est le regard que vous faites dans votre milieu du VIH-SIDA?
Oui, le regard n'est pas tout à fait bon, hein, madame, parce que ici à Badolit, nous avons du mal à avoir les pourcentages de personnes vivant avec le VIH-SIDA suite à la mauvaise volonté des Litéens. Dans les Litéens, ce sont les habitants de Bado qui ne veulent pas se dépister volontairement pour savoir là où il se situe. Mm-hmm. Alors, le deuxième petit point, j'aimerais que les ONG, hein, madame, qui œuvrent en RDC en matière de lutte contre le VIH et SIDA, puissent renforcer encore de plus la campagne de sensibilisation de lutte contre cette pandémie. Parce que, ici, à Babelis, il y a des ONG qui s'occupent de VIH et SIDA, mais leur activité est faible en ce qui concerne la sensibilisation.
Oui, mais on voudrait savoir, Didier, vous dites qu'il y a certaines personnes à Babelis qui ne veulent pas se faire dépister volontairement, mais est-ce que quand même il y a certains cas de SIDA que les gens, les voisins, la famille, est-ce qu'ils savent au moins que le SIDA existe?
Oui, le SIDA existe bel et bien dans la vie des Bado. Il y a les voisins, les camarades, même les membres de la famille qui meurent avec les VIH et SIDA.
Oui. En tout cas, merci beaucoup pour votre rapport. Vous vouliez, vous souhaitez qu'on puisse renforcer en fait la lutte contre le VIH-SIDA, surtout dans la sensibilisation. Merci beaucoup d'avoir appelé et bonne journée à Badolit. Nous avons Gracien qui nous appelle de Mbujimayi au Kasaï Oriental. Bonjour Gracien.
Bonjour.
Oui, Gracien, vous écoute.
Oui, bon, je voudrais intervenir. J'ai vu Didier intervenir. Je vois qu'il a aussi raison. Même ici à Mbujimayi, nous comprenons que la sensibilisation n'est pas si forte que ça, c'est vrai. Nous voyons le PNMRF, il y a des organismes qui luttent sur la sensibilisation du sida, mais on ne prend pas le poids de la sensibilisation, parce que même avoir la société à discuter aussi avec les gens, il y a de ces personnes qu'on voit qui n'ont même pas de connaissance sur le VIH-SIDA et même sur les manières de se prévenir.
Oui. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire à votre niveau? Au lieu d'attendre que les ONG le fassent, vous-même, comment ça se passe? Est-ce que vous sensibilisez quand même les gens?
Oui, à nos niveaux, on parle, je suis étudiant à l'université de Mbujimayi, on tient des fois des conférences sur le VIH-SIDA. On a un club au niveau de l'université qu'on appelle le CUNS, c'est universitaire médical pour la promotion de la santé. Mm-hmm. Nous avons des fois des campagnes de sensibilisation, des fois au niveau des écoles, de la place, on essaie de sensibiliser sur la sexualité, le VIH-SIDA, et on organise même des forums au niveau de l'université, sur la lutte contre le VIH.
Est-ce que vous sentez qu'il y a un changement quand même de comportement? Est-ce que les étudiants arrivent à se dépister, à se faire dépister volontairement?
Bon, il y a un petit changement parce que dernièrement, je crois, si pas cette année, l'année passée, il y a eu même une campagne de dépistage volontaire au niveau de l'université.
Mm-hmm.
Il y a eu, bon, c'était pas que, il y a eu des étudiants qui avaient peur de le faire, mais quand même, la sensibilisation a été faite. Beaucoup d'étudiants se sont fait dépister. Alors, ce qu'on demande, c'est que les autorités mettent beaucoup plus de moyens en œuvre pour que, au niveau de la ville, concentre maintenant le SIDA existe et que la majorité de la population s'est informée.
Merci beaucoup, Gracien, pour toutes les informations que vous nous avez données, même les témoignages. Comment est-ce que vous vous organisez au niveau de votre université dans la lutte contre le VIH-SIDA?
Parole aux auditeurs.
Docteur Jean Kabouaou, vous avez suivi quand même nos auditeurs. Ils se plaignent d'une carence ou bien il n'y a pas assez de sensibilisation dans la lutte contre le VIH-SIDA. Et que fait votre programme dans ces cas-là?
Ben exactement. Donc, nous sommes un programme national multisectoriel. Et quand nous disons multisectoriel, ça veut dire tous les secteurs sont intéressés, sont impliqués, doivent être impliqués dans la lutte. Et là, vous avez senti tout de suite, nos auditeurs font appel aux ONG. Ils pensent que la lutte contre le VIH-SIDA est une affaire seule des ONG. Et heureusement que l'université Mbujimayi s'est impliquée. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tous les secteurs, toute personne, toute organisation sociale, toute organisation communautaire, toute entreprise, tout service public, là où il est, doit intégrer la lutte contre le VIH-SIDA dans son quotidien, dans le travail de tous les jours. Donc la lutte contre le VIH-SIDA est une affaire de tout le monde, ce n'est pas seule une affaire des ONG.
Mais si j'ai bonne mémoire, vous avez installé même plusieurs structures dans toutes les entreprises publiques de l'État concernant une cellule de lutte contre le VIH-SIDA.
Exactement. Donc nous avons quatre composantes. Nous avons, dans l'architecture du programme, nous avons quatre composantes. Nous avons les secteurs publics. Donc là, vous avez le gouvernement, la présidence, l'Assemblée, tout ce qui est secteur public, les différents ministères. Nous avons le secteur privé et entreprise. Et nous avons le secteur communautaire. nous avons le secteur, la société civile avec les ONG et les églises. Donc c'est une affaire de tout le monde. Chacun, là où il est, doit s'impliquer dans la lutte contre le VIH-SIDA et ne pas attendre que les ONG extérieures ou les ONG viennent d'ailleurs pour organiser la lutte contre le VIH-SIDA. Ça serait une aberration et donc on se retrouve dans cette situation où les gens ne font rien, attendent que l'assistance ou la sensibilisation vienne de l'extérieur. Pendant ce temps, l'infection prend de l'ampleur.
Oui, et nous avons James qui nous appelle de Goma, au Nord Kivu. Bonjour James.
Salut, c'est Marie-Chantal.
Oui, James, on vous écoute par rapport au VIH-SIDA, la lutte contre le VIH-SIDA.
La lutte contre le VIH-SIDA, d'accord, c'est un phénomène naturel. Mais tout à fait, je suis dans la ville de Goma. On est passage du repos. Et moi, je trouve que c'est un phénomène surnaturel, madame.
Donc,
pourquoi moi, je conçois de cette manière, puisque c'est une appréhension à moi. Vous savez que bien des femmes sont stigmatisées face à ce sujet. Et nous en avons aussi marre, puisque nous ne savons pas d'abord l'origine du VIH-SIDA. Il faudrait que l'éditeur qui est au studio nous parle d'abord brièvement du film du VIH-SIDA avant d'évoluer. Mais ça sera le tien. Moi, j'ai un rapport. J'appelle à tous les jeunes et à toutes les filles jeunes, comme moi, bien sûr, de s'intéresser à cette maladie. Et vraiment, puisqu'on ne peut pas lutter contre le VIH-SIDA sans apprendre les trois méthodes qui sont la vaccination, etc. Ça de notre madame.
Oui.
Vraiment, il faut appliquer même de telles mesures préservatives, etc. Tout à fait pour augmenter de cette maladie.
Oui, la BCA.
C'est comme un fléau. Moi, je le qualifie comme un fléau puisque je trouve que c'est comme si les plats nous ont rejeté cette balle. C'est comme si vraiment. Ce fléau a un but de rattraper toute la jeunesse qu'on connaît. Vraiment, nous devons nous impliquer d'une manière instinctive.
Mais est-ce que vous connaissez quand même des proches de vous qui souffrent du VIH-SIDA?
Vraiment, pour être concret, pour une manière pragmatique, je vous dirais que je n'ai jamais vu même une personne souffrir d'une VIH-SIDA. Personne vivant avec le VIH. Vraiment, pour moi, je n'ai jamais vu la personne à question. On me dit souvent que la maladie existe, mais je ne suis pas tout à fait d'accord, madame, que si la maladie existe, mais par votre sensibilisation à partir de la radiographie, je suis très conscient que la maladie existe. C'est un fléau que nous devons combattre, que nous devons prendre.
Oui, oui, James. Oui, mais James, mais comment, James, on voudrait savoir comment, c'est vrai que vous dites que vous n'avez jamais vu quelqu'un qui souffre de VIH-SIDA, mais quelle est l'attitude que vous, en tant que personne, si vous trouver devant une personne qui vit avec ce virus, quelle est l'attitude que vous comptez avoir?
Peut-être si je me trouvais devant cette personne, mais à l'heure qu'il est, je n'ai qu'à vous souligner que moi, je n'ai jamais vu la personne. Mais peut-être fois, je me renseigne entre autres proches de jeunes, ils me disent que non, allez d'abord à l'hôpital au niveau de
Donc.
Un hôpital de au niveau des Goma qui s'inspecte pour traiter de telles maladies ou même pour le violence, etc. Mais vous voyez, madame, moi, je n'ai pas encore eu ce temps-là de me siéger au niveau de l'hôpital.
Non, mais
en fait, si je me respecte, à l'heure qu'on se
passe,
je
ne me
respecte pas cette personne.
James, on comprend bien, vous n'avez pas encore eu l'occasion de pouvoir rencontrer une personne qui vit avec le VIH-SIDA. Vous voulez aussi qu'on puisse continuer à sensibiliser et puis aussi, comme notre invité est médecin, il pourra nous donner plus d'explications sur l'origine même du VIH-SIDA. Merci beaucoup, James, d'avoir appelé. Hein. Nous allons au Maniema, à Kindu. Bonjour, Polybé.
Oui, bonjour Marie-Chantal.
Oui, Polybé, quel regard faites-vous sur le VIH-SIDA, surtout à Kindu au Maniema?
Ah, en tout cas, les regards, bon, je ne sais pas quel regard je dois porter autour du SIDA. C'est une maladie et une très grave maladie. Mais ce que je dois dire, c'est qu'il faut sensibiliser trois catégories de personnes que je considère comme étant la base de la propagation du virus.
Mm-hmm.
Il y a premièrement, les responsables des chambres de prière qui, d'une manière honteuse, connaissent toutes les femmes qui leur arrivent, prétestant que c'est une façon de les mettre en communion avec le Seigneur.
Mm.
Il y a, en deuxième position, les médecins
il demande une prime de risque alors qu'il s'en expose. À chaque consultation, une femme, il sollicite des rapports sexuels.
Ça, c'est vous, c'est vous qui le dites. Est-ce que vous avez des témoignages ou bien
J'ai des témoignages, j'ai des preuves à l'appui. En troisième position, il y a les gardiens de prison et cachots qui s'illustrent aussi dans l'aventure. Il y a également les agents transmetteurs du SIDA qui ne sont pas les moindres, les chefs du bureau. Bon, les lits dans les bureaux, pourquoi faire?
Il y a des bureaux qui...
C'est pour que les chefs se reposent. Mais c'est une manière de... Oui?
Donc vous confirmez qu'il y a certains bureaux qui ont... Il y a des lits dans certains bureaux.
Mais dans beaucoup de bureaux, on dit que les chefs se reposent alors qu'ils font autre chose. On dit que les chefs... alors qu'ils font autre chose. Alors, je souhaiterais qu'il y ait contrôle obligatoire de l'état sérologique. Le dépistage volontaire ne réussira jamais. Les Congolais sont difficiles. Les appeler pour un dépistage volontaire, c'est une perte inutile de temps. Il faut seulement un dépistage obligatoire.
Oui, mais pour l'idée, quand même, il y a certaines personnes qui vont se faire dépister volontairement. Vous pensez qu'il faudrait un dépistage obligatoire, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait une certaine discrimination si, comment est-ce que ça va se passer si c'était obligatoire? Quelle est la réaction, par exemple, que vous aurez face à une personne qui vit du VIH, qui vit avec le VIH-SIDA?
Mais par rapport au dépistage volontaire, Il y a aussi, si on tient compte des dépistages volontaires, il y a aussi des gens qui sont discriminés.
Mm-hmm.
Quand on sait que tel a le sida et qu'il sait lui-même se dépister, il connaît le même sort que les autres. Et même si on dépistait tout le monde et qu'on conseillait, à la population de ne pas stigmatiser les malades du sida, je pense que la solution serait facilement trouvée.
Mmh. Mais vous-même, est-ce que vous les acceptez facilement auprès de vous, dans votre environnement? Allô, Polybé? On a perdu... Yeah. Bon, Polybé, on voudrait toujours savoir, est-ce que vous acceptez cordialement ces personnes qui vivent auprès de vous, ces personnes vivant avec le VIH-SIDA auprès de vous? Bon, on a perdu Polybé qui nous appelait de Kindu. On lui dit quand même merci d'avoir participé à cette émission. Au Nord Kivu, à Saskia, c'est Ali qui nous appelle. Bonjour Ali.
Oui, bonjour madame.
Oui, Ali, on vous écoute.
Oui, je voulais vraiment intervenir par rapport au thème d'aujourd'hui qui est vraiment d'une importance capitale. Quand on sait que les étapes vraiment se ragent partout dans le monde. Plus concrètement, je voulais dire que concernant les cas de l'AFC en matière du sida, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit plus intensifier la sensibilisation parce que ça n'est pas un problème. Par exemple, là où je suis, à Sakir, à plus de 27 km de la ville de Goma, ce que j'ai pu remarquer, c'est que la plupart des gens ne sont pas informés sur ce qui est le sida. Donc, la première phase, c'est qu'on doit intensifier la phase de la sensibilisation à travers toutes les couches. Là, je vois les églises qui doivent aussi vraiment jouer, qui doivent vraiment porter leur contribution.
Oui, à part les églises, qui doit faire cette sensibilisation?
Bon, c'est ça que je suis en train de dire. À part les églises, il y a aussi le gouvernement. Vous saviez si aujourd'hui l'Ouganda a pu vraiment diminuer les taux de la croissance du sida, c'est grâce à l'implication personnelle de son gouvernement. Donc, à part les églises, le gouvernement doit avoir un programme précis. Il n'y a pas seulement le gouvernement. Vous êtes avec l'invité du jour du PNMLS. Ils doivent cesser leur coutume de rester au bureau. Ils doivent travailler directement avec les concernés. Quand je parle des concernés, il y a d'abord, en premier lieu, la population, mais également les personnes qui vivent avec le VIH. Ce que moi, j'ai pu constater, c'est que ces gens se basent plus dans leur bureau qui est de travailler avec les gens concernés. Mm-hmm. Et là, c'est un grand problème avec les programmes PNMLS. Vous savez bien qu'ils travaillent avec les gens qui ne représentent pas même la plus de la population. Ils se supplient aux organisations qui ne sont pas même implantées à travers toute la République ou bien à travers toute la province. C'est un grand problème. Donc, je suis en train de dire qu'il faut toucher la population concernée. Et quant à ce qui concerne les personnes vivant avec les VIH, je vois que nous devons les accepter telles qu'elles sont. C'est une maladie. Donc, nous ne devons pas vraiment voir la discrimination à travers ces personnes-là. Moi, malheureusement, je n'ai pas des amis qui vivent avec les VIH, mais je vois que pour moi, sont des personnes qu'on doit vraiment accepter comme tout le monde, parce que c'est une maladie. Si vraiment on peut vraiment survivre de là.
Oui. Mais Ali, aimez-vous même dans dans votre quartier, est-ce que vous faites aussi cette sensibilisation?
Moi, personnellement, d'abord, j'ai fait partie d'une organisation qui s'appelle les jeunes des Kalaks, et nous avions un volet qui s'occupe du SIDA. Donc, nous faisons ça régulièrement à travers les écoles, et comme on s'occupe de la jeunesse, notre couche conférée, c'est la jeunesse. Donc, nous essayons de faire ça de temps en temps, oui.
Merci beaucoup, Ali, pour toutes les informations que vous nous avez données, et aussi votre façon de voir les choses, et pour vous, il faudrait encore une fois intensifier la sensibilisation. Merci d'avoir participé à cette émission, Ali.
Et si on prenait rendez-vous, juste pour vous agrémenter votre début d'après-midi, 5 jours par semaine pour parler culture, mais aussi femmes et bien-être. C'est tout simplement Métissage, de lundi à vendredi, à partir de 13h, dans le Kinshasa. Avec Jeannot Matoki.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Pour les auditeurs qui viennent de se brancher sur Radio Capi, vous suivez l'émission Parole aux auditeurs et ce mercredi, nous parlons de la pandémie du VIH-SIDA en marge de la journée internationale célébrée hier, le 1er décembre. La RDC enregistre chaque année environ 162 000 nouveaux cas d'infection du VIH-SIDA et compte depuis 2008 environ 1 230 000 personnes vivant avec cette maladie et près de 10% de ces personnes atteintes décèdent chaque année. Tandis qu'on compte 430 000 orphelins du VIH-SIDA. Pour parler de cette pandémie qui fait des ravages, Parole aux auditeurs lance ses bases sur deux questions. Quel regard faites-vous sur le VIH-SIDA dans votre milieu? Selon vous, que faut-il faire pour renforcer la lutte contre le VIH-SIDA et la prise en charge des personnes atteintes? Vous pouvez participer à cette émission, vous avez deux possibilités. Vous pouvez nous appeler au 081-99-77-800 ou vous pouvez nous écrire par internet à l'adresse pa@radiookapi.net. Radio Capi s'écrit en un mot avec deux lettres O. Nous avons notre invité, il s'agit de Dr Jean Kabouaoui, il est chargé de l'appui aux initiatives communautaires au programme national multisectoriel de lutte contre le VIH-SIDA. Docteur Kabouaoui, vous avez suivi la série des auditeurs concernant leurs préoccupations. Est-ce que vous pouvez répondre à certaines de leurs préoccupations?
Oui, j'ai très bien suivi. Je remercie tous ces auditeurs, ça montre l'intérêt du sujet. En ce qui concerne l'auditeur du Maniema qui parle du dépistage obligatoire. Ben, ça, c'est une perception du problème, mais je crois que on doit respecter le droit de chacun. Quand nous regardons le thème de cette année, c'est accès universel, les droits de la personne. Et donc, le dépistage contre le VIH-SIDA n'est pas obligatoire, il est volontaire, c'est justement pour ne pas atteindre à la liberté de personnes.
Mm-hmm.
Nous disons volontaire parce qu'il faut que la personne soit convaincue et de ce qu'il fait pour qu'il y ait un comportement conséquent qui s'ensuive une fois qu'il a le résultat. S'il est positif, il va aller au soin, il va s'approprier le soin, il va adhérer au soin. Mais s'il est négatif, il va améliorer le comportement et éviter le comportement à risque. Mais vous êtes sans ignorer qu'il y a eu une loi qui a été promulguée depuis l'année passée.
Mm-hmm.
Et donc, cette loi détermine, les conditions. La loi détermine donc le droit des personnes vivant avec le VIH-SIDA.
Mm-hmm.
Et donc, chacun doit prendre connaissance de cette loi et veiller à l'appliquer. Sinon, il y a aussi un volet juridique. Il y a des poursuites, des sanctions contre les contrevenants.
Oui. Alors, docteur James de Goma voudrait aussi savoir quelle est l'origine, en fait, du VIH-SIDA.
Ben, moi, je pense que, pour le moment, c'est une question superflue. Il n'est pas question, s'il veut, on peut lui donner tout ça, mais nous avons le périmètre. Votre maison est en train de brûler, au lieu d'éteindre le feu, vous commencez à chercher qui a brûlé la maison, d'où vient le feu, et pendant ce temps, la maison est en train de consumer. Mmh. Donc, je crois, à mon avis, que c'est une question qui vaut autant, mais on ne va pas passer à du temps sur cela. Mmh. Nous savons que c'est un virus qui est apparu vers les années 80 et donc qui a fait son chemin en Afrique, alors que partout ailleurs, par exemple en Occident, en Amérique du Nord, le virus est maîtrisé, mais il n'y a pas de nouveaux cas qui surviennent, pendant que chez nous, le virus est en train de prendre de l'ampleur tout simplement parce que nous avons des comportements à risque, parce que justement il y a une insuffisance d'information, il y a une insuffisance de sensibilisation parce que la population pense que c'est une affaire des autres, c'est une affaire des blancs, c'est une affaire des ONG qui doit venir sensibiliser.
Mm-hmm.
Et donc c'est vraiment dommage si il y a encore une telle conception, une frange de population qui pense ainsi.
Mm-hmm.
Mais je suis d'accord avec Ali de Goma qui pense que il faudra intensifier la sensibilisation. Et là, je pense qu'on doit aller très loin, non seulement intensifier la sensibilisation, mais il faudrait qu'il y ait une intégration transversale de la lutte contre le VIH-SIDA dans toutes les activités de la vie. Mm. C'est ce que, ailleurs, dans le milieu anglophone, on a appelé le HIV mainstreaming. C'est-à-dire, dans tout ce que vous faites, vous devez procéder à une analyse des situations. Dans ce que moi je fais, quels sont les facteurs de risque pour que moi j'attrape le sida? Ou dans ce que je fais, quel serait l'impact du sida sur mon travail? Donc ce sont deux questions fondamentales pour intégrer la lutte contre le VIH-SIDA dans le vécu quotidien.
Oui.
Donc la lutte est multisectorielle, la lutte doit être intégrée dans la vie quotidienne.
Oui.
J'insiste encore, donc le dépistage doit être volontaire, on ne peut pas porter atteinte à la liberté des individus et les coucher à un dépistage obligatoire.
Merci beaucoup, docteur. Nous avons un autre auditeur qui nous appelle du Katanga, de l'Ikasi. Bonjour, Joe.
Bonjour, Joe.
Oui, Joe, on vous écoute.
Oui, moi, j'ai plutôt quelques préoccupations parce que j'ai suivi tout à l'heure le Tanzanais qui a parlé.
Oui.
Là, je voulais savoir le rapport qui dit que c'est à la couche aérienne, il y a un taux vraiment élevé. C'est par rapport à quoi? Quelles sont les causes? Ça, c'est la première préoccupation.
Mm-hmm.
La deuxième préoccupation, est-ce que l'État, bon, je sais qu'il y a le PNMLS qui existe, mais est-ce que le résultat de ce que le PNMLS fait, est-ce que le résultat est vraiment ressenti? Parce que nous voyons que le taux ne fait qu'augmenter chaque année. Alors, qu'est-ce que le PNMLS, ou bien le PNMLS a une mauvaise stratégie pour lutter contre le VIH-SIDA, ou bien qu'est-ce qu'il ne va pas?
Oui, l'invité va répondre. Merci beaucoup pour vos préoccupations. Il y a aussi Isaac qui nous appelle de l'ICASI. Bonjour Isaac. Isaac? On a perdu Isaac, hein, il nous appelait de l'ICASI au Katanga. Docteur, vous avez suivi les préoccupations, mais nous avons aussi une série des auditeurs qui nous ont écrit par l'adresse pa@radiocapi.net. Bonjour Titi.
Bonjour Marie-Chantal.
Et on vous écoute.
Alors, qui a VIH de Goma pense que la pauvreté est parmi les causes de la propagation du VIH-SIDA en Afrique subsaharienne. Et notre auditeur Prosper de Guémena pense que le SIDA fait partie des maladies que la Bible avait prédites. Donc, les médecins ne trouveront pas de solution. Aujourd'hui, c'est devenu un débouché pour le chercheur des fonds au détriment des victimes de ce fléau. Franck de Baraka dit ceci, tant que la moralité baisse du jour le jour, le taux de sida va continuer à augmenter, même parmi les intellectuels. Et enfin, Jean de Licassi lui dit ceci, il lui pose la question à l'invité, quelle est la durée de vie d'un enfant né des parents vivant avec le VIH-SIDA si l'enfant n'est pas pris en charge?
Merci beaucoup Titi hein, pour la lecture de toutes ces interventions. Les internautes sont surtout ne vous fatiguez pas. Hein, nous attendons vos préoccupations, vos avis. Hein,
on peut rappeler l'adresse
oui,
alors
bien
vous écrivez à l'adresse opa@radiotepi.net.
Merci beaucoup Titi. Docteur Jean Kabouaou, vous avez suivi cette série encore d'auditeurs. Est-ce que vraiment le sida c'est une fatalité?
Ben écoutez, le sida n'est pas une fatalité. Hein. Le sida, c'est un problème de santé publique qui est apparu vers les années 80. Et pour le moment, donc, on a fait beaucoup de progrès. C'est l'unique maladie qui a presque révolutionné la science et qui a mis tous les chercheurs ensemble. Je suis très optimiste. Quand on a commencé la lutte contre la maladie vers les années 80, quand quelqu'un était déclaré sidaïen, il ne vivait pas plus de 100 jours. Ben, aujourd'hui, nous disons que quelqu'un qui est porteur du virus et qui est sous ARV peut vivre autant qu'une personne qui n'est pas infectée. Hein? Je crois que les choses ont beaucoup, beaucoup évolué.
Mm-hmm.
Je reviens donc sur la personne qui a parlé du sida qui ne fait que galoper. À quel moment on dit que le sida a pris des proportions, exagérées.
Oui,
je n'ai plus le mot qu'il avait. Mais disons, l'OMS dit que le sida est généralisé, que le VIH-sida est généralisé quand le taux de séroprévalence dépasse 1%. Et là, donc, pour nous, au Congo, nous avons un taux variant de 3,23 à 4,1 pour cent. C'est-à-dire que nous sommes dans un état de VIH-SIDA généralisé.
Oui, et je voulais savoir pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à maîtriser cela. Et donc, les actions du programme ne sont pas assez
maîtriser cela pour plusieurs facteurs. D'abord, le mode de transmission est avant tout sexuel. Bon, il y a quelqu'un qui a parlé de la moralité qui baisse. La moralité qui baisse, ça veut dire tout simplement que les gens n'ont pas une maîtrise du sexe. Bon, la pauvreté est dans maintenant, donc tout s'achète au prix du sexe. C'est tout à fait normal. Mais nous disons que cela peut continuer, nous ne sommes pas des moralistes, mais qu'ils prennent leurs précautions en utilisant les préservatifs.
Oui.
Tant les hommes que les femmes, ils doivent utiliser les préservatifs et qui empêchent la transmission du VIH-SIDA d'un individu infecté à un autre individu.
Oui, on peut aussi rappeler l'abstinence et la fidélité.
Exactement. L'abstinence, la bonne fidélité réciproque, hein, le port du préservatif à tout rapport occasionnel et le dépistage d'emblée ABCD. Et le dépistage volontaire.
Oui, il y a aussi Jean qui nous a écrit à partir de l'ICASI, il voulait savoir quelle est la durée de vie d'un enfant né des parents vivant avec le VIH-SIDA.
Difficile de prédire la durée de vie de quelqu'un, ce sont des paramètres assez difficiles, mais disons qu'un enfant qui est né des parents de séropositifs, si vraiment il n'est pas pris en charge, compte tenu de la précarité de la vie, c'est un enfant qui dépassera difficilement les 5 ans.
Mm-hmm.
Il dépassera difficilement les 5 ans.
Oui.
Le taux de mortalité est très élevé. Mais cet enfant, s'il est pris en charge très tôt et mis sous antirétroviraux pédiatriques, c'est un enfant qui a la vie normale et qui vit normalement, qui continue et qui commence les études et continue normalement.
Donc, est-ce que cet enfant a des signes particuliers sur le corps qui sont différents des autres enfants qui sont nés normalement?
Non, il n'a pas de signes particuliers. Il n'a pas, jusqu'à la manifestation des signes, cet enfant qui est séropositif n'a pas de signes particuliers.
Mmh. Et nous avons parlé aussi de l'accès aux antirétroviraux. Apparemment, selon les derniers chiffres que nous avons reçus, il n'y a que 10% des personnes qui sont susceptibles de pouvoir...
Oui, effectivement, il y a 300 000 personnes qui sont en attente. Et jusque-là, il y a 30 000 personnes qui sont sous ARV. C'est un défi énorme que nous avons dans le pays. Pour mettre tous ces gens donc sous ARV. Bien, vous savez, le PNMLS travaille avec le financement de la Banque mondiale. Nous sommes en train de terminer le premier financement en janvier 2011. Donc, ces financements va prendre ça. Et nous sommes en train de négocier, de chercher avec d'autres intervenants, le Fonds mondial, les coopérations bilatérales, multilatérales pour avoir justement donc des subventions.
Et à ce propos, il y a un auditeur qui nous a écrit, il dit que le PNMLS a reçu 5 millions de dollars du Fonds mondial. Qu'est-ce qu'il en fait?
Bah, écoutez, ce sont des gens qui n'ont pas l'information correcte. Il est vrai que nous travaillons avec le Fonds mondial, qui est notre partenaire, et nous avons des projets, des sous-projets qui sont financés par le Fonds mondial, qui passent par l'intermédiaire du PNMLS pour appuyer ces organisations. Mais dire que nous avons reçu 5 millions de cash comme ça du Fonds mondial, ça c'est peut-être assez risqué.
Nous avons un auditeur, José. Bonjour, José. Bonjour, José.
Bonjour.
Oui, José nous appelle d'ici de Kinshasa. On vous écoute, José.
Oui, je voudrais poser la question à votre invité.
Mm-hmm.
S'il pouvait me donner le signe que peut présenter un malade de une patte. Quels sont les symptômes les symptômes
de la maladie
qui peut présenter,
oui, une personne qui vit avec le VIH sida. Oui. Merci beaucoup, José.
Nous avons une préoccupation.
Oui.
Je voudrais savoir combien de temps un patient de VIH peut rester. Quelle est la durée de cette personne-là qui n'a pas pris les antirétroviraux?
Merci beaucoup, José. Merci d'avoir participé. Vous avez donné vos préoccupations. Notre invité pourra vous donner des réponses. Et aussi Tati, qui nous appelle à partir de Mbujimayi au Kasaï oriental. Bonjour, Tati.
Bonjour.
Oui, Tati, on vous écoute.
Bon, je me suis toujours posé la question sur les dépenses qu'on a toujours fait sur le problème de sida. Mais cela, c'est une grande préoccupation pour moi parce que il y a des secteurs, par exemple l'agriculture et d'autres histoires qu'on pouvait dépenser des millions de dollars. Et cette maladie-là, il n'a jamais eu de réponse sur sa présence. Ça fait au moins 20 ans qu'on entend d'autres parler toujours de sida. Quelle est la solution que la NMLS pouvait nous donner?
Donc vous voulez savoir quel est le montant que le gouvernement affecte dans la lutte contre le VIH-Sida? C'est un peu ça.
Oui.
Merci beaucoup, Tati, pour toute votre question. Vous vous restez en ligne. Notre invité, Dr Jean Kabouaou, va vous donner des réponses.
Parole aux auditeurs.
Oui, Dr Kabouaou, vous avez suivi les deux auditeurs qui vous posent certaines questions concernant le VIH-Sida.
Ok, en ce qui concerne les signes, je pense que les signes n'ont pas changé depuis que la maladie est apparue. Nous avons comme symptômes le VIH comme infection n'a pas de symptômes. Quand quelqu'un est infecté, il n'y a aucune manifestation physique qui montre que la personne est infectée. Mais quand quelqu'un fait le sida, à ce moment-là, nous avons des manifestations comme les selles liquides, les diarrhées. La personne fait des diarrhées plusieurs fois par jour et il fait une perte de poids qui va jusqu'au-delà de 10% du poids de l'individu. Et il a des fièvres, des fièvres récurrentes, rebelles à toute antipyrétique. Et donc, à côté de ça, il y a des manifestations des infections opportunistes qui viennent se greffer dessus.
Et il a demandé combien de temps une personne qui vit avec le VIH-Sida, sa durée de vie, si elle n'est pas sous antirétroviraux.
Ben, écoutez, là aussi, on ne peut pas faire des prédictions. Nous ne sommes pas des magiciens. On ne peut pas faire des prédictions sur la durée de vie d'un individu qui n'est pas sous antirétroviraux. D'abord, pour être mis sous antirétroviraux, il faut être éligible. C'est-à-dire, il faut avoir un taux d'anticorps assez bas. Il faut avoir une charge virale assez élevée. Et ça, c'est au niveau des laboratoires qu'on doit déterminer cela. Mais quand on n'est pas encore arrivé à ça, donc on peut continuer à vivre, disons, allègrement, et vivre pendant longtemps, vivre pendant 10, 15, 20 ans, et donc jusqu'à ce que la maladie va se manifester.
Oui. Et aussi, il y a Tati hein, qui voudrait savoir s'il va près de Gouzouma et quel est le budget, en fait.
Il y a cette histoire de dépenses sur le sida. Donc les gens pensent que les dépenses, l'argent qu'on a sur le sida est énorme. Je crois que c'est pas vrai, parce que le Congo est énorme avec 60 millions d'habitants. En principe, les dépenses qu'on devrait faire pour le VIH/SIDA, c'est 180 millions de dollars par an.
Mm-hmm.
Et là, par exemple, avec la dernière collecte RedeS qu'on vient de faire 2008, nous avons découvert que au pays, on avait dépensé que 93 millions de dollars, c'est-à-dire la moitié des 180 millions. Donc, c'est une fausse impression de dire qu'il y a beaucoup d'argent. Il n'y a pas d'argent dans le VIH/SIDA. Et là-dedans, donc, les dernières découvertes qu'on vient de faire avec, en prélevant les données dans tous les pays, on constate que le gouvernement n'a participé que pour... je me réserve de donner des chiffres pour ne pas créer des polémiques.
Oui, et souvent, cet argent est dépensé, comme vous avez dit, 93 millions, c'est dans la prévention ou bien la prise en charge des malades?
Beaucoup d'argent va vers la prévention et dans la prise en charge. Et là aussi, je vais répondre à l'individu, à notre auditeur, je ne sais pas, du Maniema, qui parlait des approches. Je crois que jusque-là, le sida avait apparu comme une maladie, et on l'a abordé par l'approche médicale. Donc c'était une affaire de médecin, on attendait les gens à l'hôpital qui viennent malades.
Mm-hmm.
Mais nous avons constaté que c'est plus un problème de communautaire, un problème de santé publique, et c'est pour ça que nous avons préconisé l'approche multisectorielle, où tout le monde doit être impliqué. Au niveau de l'école, l'enseignant doit mettre l'enseignement du VIH/SIDA à l'école primaire, dans toutes les classes secondaires et à l'université. Au niveau du ministère des Transports, il faut qu'il y ait une politique pour que le SIDA ne puisse pas se propager sur les bateaux, sur le fleuve, dans les trains et tout ça sur les routes. Au niveau de l'agriculture, quels sont les risques pour les mamans maraîchères qui vont acheter des légumes dans les fonds des vallées, de ne pas avoir des rapports sexuels avec celui qui produit les légumes. Au niveau de l'économie, quels sont les risques que une femme qui va acheter une boîte de tomates au marché et ne tombe pas dans le panneau du vendeur et ramener le virus au SIDA et vice versa. Donc, il y a toute une politique d'approche multisectorielle qu'il faudra mettre en marche. Et donc, pour que la lutte devienne l'affaire de tout le monde et dans tout ce que nous faisons.
Mm-hmm.
C'est ce que nous disons, donc, approche multisectorielle et l'intégration transversale dans toutes les activités de la vie.
Merci beaucoup, docteur.
Vous êtes jeune et branché? Vous êtes très passionné de tout connaître? Alors, faites-le plein d'énergie dans votre émission Total Énergie. Rejoignez d'autres jeunes sur Radio-TFI tous les jours du lundi au vendredi à 15h à 16h. Total Énergie, c'est l'énergie totale.
Vous suivez Parole aux auditeurs. Aujourd'hui, nous parlons du VIH/SIDA. La RDC enregistre chaque année environ 162 000 nouveaux cas d'infection du VIH/SIDA. Et elle comptait en 2008 1 230 000 personnes vivant avec cette maladie, et près de 10% de ces personnes atteintes décèdent chaque année, tandis que l'on compte 430 000 orphelins du SIDA. C'était en 2008. Et pour en parler dans notre émission, nous avons deux questions. Quel regard faites-vous sur le VIH/SIDA dans votre milieu? Selon vous, que faut-il faire pour renforcer la lutte contre le VIH/SIDA et la prise en charge des personnes atteintes? Pour en parler, nous avons invité Dr Jean Kawaoui, il est chargé de l'appui aux initiatives communautaires du Programme National Multisectoriel de Lutte contre le VIH/SIDA, le PNMLS. Nous avons Bopol qui nous appelle à partir de Lubumbashi. Bonjour Bopol.
Bonjour Marie Chantal, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Si vous parlez, vous écoutez.
À propos du regard que moi je fais sur le sida ici à Lubumbashi, donc il y a vraiment une baisse sensible de la moralité, surtout de la jeunesse et de la population katangaise en général.
Mm-hmm.
À propos de statistiques, il y a à propos de méthodes, de la lutte, moi personnellement je suis intéressé bien que tout le monde s'implique. Entre autres, on trouve que l'Église en général n'est pas en mesure de fournir une bonne information à propos de la lutte contre le VIH. Donc ce sont des histoires que l'Église est tentée de considérer comme étant un tabou. Tantôt là, le docteur a intervenu pour dire que le sida n'est pas un mythe. Le sida est devenu maintenant une réalité. C'est vraiment, ce n'est plus vraiment une fatalité. Vous comprenez ça? Donc dans ce sens-là, il faut que tout le monde s'implique. Je peux même poser la question au docteur qui est vraiment dans les circuits ministériels. Que fait le gouvernement congolais dans la lutte et dans la prise en charge des réponses, tout comme des personnes vivant avec le VIH.
Mm-hmm. Oui, donc Paul, revenons un peu sur ce que vous venez de dire, que l'Église, dans l'Église, on pense que le sida, c'est un sujet tabou. Est-ce que vous avez un témoignage concernant cette affirmation-là?
Bon, d'accord. À propos de témoignage, nous sommes des églises de réveil, nous sommes des églises pentecôtistes. Dans les églises, on n'a pas vraiment assez de temps de parler sur la sexualité. On trouve que ce sont des sujets qu'on ne peut pas enseigner clairement entre autres aux jeunes, à la jeunesse, par exemple.
Oui, en tout cas, merci beaucoup, Paul, hein, pour...
Je vais répondre d'abord une question.
Oui, la dernière question, parce qu'il y a d'autres... auditeurs, vous avez déjà posé la première question concernant la part du gouvernement dans la lutte contre le VIH-SIDA.
Oui.
La deuxième question.
La deuxième question, le PNMLS, on ne sent pas tellement le PNMLS ici à Lubumbashi. C'est comme qui dirait, c'est une institution lettre morte. C'est ça.
Merci beaucoup, hein, Popol, pour avoir participé à notre émission. Il y a Joe qui nous appelle de Lukasi. Je pense qu'on a pu le joindre à nouveau. Bonjour, Joe.
Bonjour, madame.
Oui, Joe, on vous écoute.
J'avais juste des petites questions à poser à l'invité du jour concernant les ARV. Parce que moi, en fait, j'ai été plusieurs fois dans les hôpitaux publics, à l'hôpital ici de l'éducation, l'hôpital public de l'éducation et celui de la SNCC.
Mm-hmm.
Je me suis fait examiner, ça fait plus de trois fois que je suis rentré là. Okay, j'avais eu un peu de rapport avec une femme qui a été soutenue et puis qui était morte par suite. Et en fait, lorsque je me suis rendu dans ces hôpitaux, on me dira toujours qu'il y a eu des résultats qui sont toujours négatifs, négatifs, négatifs.
Mm-hmm.
Lorsque je me suis rendu, quelques jours plus tard, quelques mois plus tard, je suis senti que j'ai perdu beaucoup de poids et tout. Et tout. Alors, je me suis rendu quelque part dans un hôpital hein, privé. Dans un hôpital privé, alors on m'a examiné, on a trouvé que c'était positif. Alors, je ne sais pas comment rentrer. Parce que là, on m'a examiné, il n'y avait pas d'IHV pour qu'on me donne à ce moment-là. On me dirait que je puisse aller, que je rentre dans des hôpitaux publics pour que l'on puisse me donner des ARV. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que l'on puisse en tout cas disponibiliser des ARV partout dans les hôpitaux, dans les grands hôpitaux privés?
Oui. En tout cas, merci Joe. Hein, vous restez en ligne, le docteur Carbois pourra vous répondre. Quelles sont les adresses pour pouvoir se procurer des ARV, docteur Jean Carbois?
Ben, écoutez, les adresses pour répondre à notre dernier auditeur, il est à Lubumbashi, il est à Lukasi. Je pense que c'est plus facile d'aller directement au PNLS ou au bureau du PNMLS. Ils vont leur donner des précisions sur des partenaires qui font la prise en charge médicale des cas du sida, des cas VIH.
Est-ce que c'est gratuit ou bien...
Les ARV ne doivent pas être... ne sont pas vendus. Les ARV sont gratuits. À Lubumbashi, nous avons un dépôt là, comment on appelle ça, la centrale de distribution des médicaments essentiels à Lubumbashi, où le PNMLS a un stock de médicaments qu'il délivre auprès des hôpitaux, auprès des zones de santé qui en font la réquisition.
Et l'ICACI aussi bénéficie de ce lot de ARV.
Oui, oui, exact. Donc, à Lubumbashi, je crois que là, il n'y a pas de problème. Alors, je voulais dire, il y a quelqu'un qui a dit que le PNMLS est l'être mort à Lubumbashi.
Oui, s'il vous plaît, docteur, on peut d'abord remercier Joe je pense qu'il a suivi et qu'il a pris l'adresse. Joe, est-ce que vous avez pu prendre l'adresse où vous pouvez vous adresser pour avoir des ARV?
Oui, en tout cas, j'ai suivi, j'ai eu l'adresse, mais juste en comptant, je l'ai rentré peut-être au plein MMS, au milieu toujours d'aller à l'hôpital qui est public. Parce qu'au moment-là, c'est pas difficile pour m'étonner, parce qu'on m'avait d'abord caché de me dire la vérité, ils m'ont d'abord dit des mensonges, je ne sais pas si pour moi, en tout cas, mais c'est à dire.
Oui, merci beaucoup, Joe, hein, mais quand même, allez-y d'abord.
Là, on peut le diriger directement auprès des partenaires comme Amo Congo, comme Femme Plus. Hein, qui ont des extensions à Lubumbashi et qui peuvent le prendre en charge.
Joe, vous avez suivi, donc vous pouvez aller d'abord au PNMLS, voir comment ça va se passer, et puis aller vers Amokongo, aussi vers Saint-Plus. Merci beaucoup, Joe, de nous avoir appelé, et aussi votre témoignage par rapport au VIH-SIDA. Docteur Jean Kabouaou, vous pouvez continuer à répondre aux autres auditeurs.
Oui, donc il y a quelqu'un qui a parlé là, qui dit qu'à Lubumbashi, le PNMLS est l'être mort. Non, je pense qu'il n'a pas suffisamment d'informations. Nous avons notre bureau de coordination qui est donc dans la commune de Lubumbashi, donc au centre-ville. Et nous avons des coordinations provinciales à Kalemie, des coordinations locales à Kalemie, coordinations locales à Kolwezi, et nous avons une coordination locale à Samboa, et donc nous essayons d'aller le plus loin possible à l'intérieur au niveau des terrains. Et à Lubumbashi, nous avons un partenaire, le Humana People to People, qui travaille déjà dans la zone de la Kenya, dans la zone de la Kenya et dans la zone de Kipushi où ils sont en train de faire les ratissages porte à porte pour la sensibilisation et ils nous donnent de très bons résultats. Sans compter qu'il y a d'autres partenaires qui ont bénéficié des subventions PNMLS, des ONG, des structures officielles et tout ça. Donc, c'est un problème d'information et de méthode de travail.
Oui, docteur, vous avez aussi suivi quand même le témoignage de Joe. Il a dit que la première fois qu'il est allé se faire dépister volontairement, c'était négatif, la deuxième fois négatif, et ce n'est que plusieurs années plus tard qu'il a pu se faire dépister et c'était positif. Pourquoi est-ce qu'il y a ce changement de résultat?
Donc, je crois que c'est tout à fait normal. Quand il a lui-même l'a dit qu'il a eu des rapports sexuels à risque et il est tout de suite allé faire le test.
Mm-hmm.
Je pense que c'était pas la période indiquée, hein, de faire le test tout de suite après les rapports indiqués. Nous ne sommes pas assez outillés dans nos laboratoires pour faire la mesure de charge virale. Mm-hmm. En Occident, par exemple, c'est très facile. 48 heures après, on peut voir mesurer la charge virale dans le sang. Ok. Mais là, donc, lui, il est allé pendant la période de fenêtre. Il faut attendre donc plus ou moins 3 mois pour qu'il y ait donc des anticorps dans le sang et qui sont détectés au niveau donc des tests disponibles.
Oui.
Et donc, je crois qu'il est passé. Il est passé pendant la période de fenêtre.
Mm-hmm.
Ça c'est un. Ou deuxièmement, qu'il a peut-être fait des tests dans des structures qui n'étaient pas assez performantes.
Mm-hmm.
Bon, Dieu merci, finalement, il est tombé sur la bonne fenêtre, sur la bonne porte.
Oui.
Donc,
je
remercie le courage de cet auditeur.
Oui, nous avons Iri qui nous appelle d'Hollande. Bonjour Iri.
Bonjour madame.
Oui, on vous écoute.
Oui, j'appelle de la Hollande. Oui, 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 allez-y.
On vous écoute. C'est votre émission.
Oui, j'appelle de la Hollande. Oui, je disais justement l'intégration ou la prise en charge des malades ici en Occident ne pose plus de problème parce que ce n'est plus un secret. Lorsqu'on est malade, on se fait examiner ouvertement, donc on le dit à des copains. Dans les domaines de mon travail, par exemple, il y a une soixantaine de personnes qui travaillent dans un aéroport, l'aéroport d'Amsterdam, et on connaît beaucoup de gens qui sont atteints du sida, mais qui ne le cachent pas, qui vivent avec nous, qui travaillent avec nous, on les considère comme des humains. Le problème ne se pose pas tellement. Pas que chez nous en Afrique, le problème se pose au niveau de l'information. Les gens ne sont pas bien informés et ils se font beaucoup d'idées sur les malades.
Mmh. Et qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce qu'il faudrait?
Mais je pense que nous, la population a besoin d'informations, qu'on leur dise la vérité. Ce n'est pas en serrant la main à un malade sida qui contamine quelqu'un d'autre. Ce n'est pas en mangeant avec qui va être contaminé. Donc, c'est l'information qui manque aux gens. Il faudra qu'on fasse beaucoup, qu'on donne beaucoup d'informations à la population, qu'on donne beaucoup d'informations dans les écoles, même dans l'armée, qu'on leur dise ce qu'est le sida et comment il se transmet, par exemple.
Merci beaucoup, Eric, pour votre participation, aussi votre contribution à cette émission. Vous nous appelez à partir de l'Hollande. Docteur Jean Kabouaou, vous avez suivi quand même aussi certains auditeurs. Il revient souvent sur les ARV. Il était question pendant un moment que la Pharmakina, qui se trouve à Bukavu, puisse produire des ARV. Mais jusqu'à présent, est-ce que nous en sommes avec ce programme-là?
Ben, écoutez, en ce qui concerne la Pharmakina, je pense que ça a été une initiative que nous avons tous saluée. La Pharmakina a produit des ARV qui devaient être homologués par l'OMS. Je crois qu'ils sont dans ce processus d'homologation par l'OMS. Et je crois aussi qu'il doit y avoir un problème au niveau des politiques pour essayer de couvrir les molécules des Pharmakina. Et donc, voilà où nous en sommes. Donc, c'est une initiative que nous saluons et nous pensons que le gouvernement doit prêter main forte pour que cette initiative aille de l'avant.
Mais si la Pharmakina arrivait à produire des ARV, est-ce que ça pourrait au moins résoudre certains problèmes de pénurie d'ARV?
Si la Pharmakina produit des ARV, je pense que ça serait une solution. D'abord, sur la disponibilité immédiate des molécules, on aura ça très facilement. Et le coût, ça va diminuer le coût d'importation. Bon, là aussi, il faut voir aussi les difficultés que nous avons. Souvent, ce qui est produit dans notre pays coûte plus cher que ce qui vient d'ailleurs. Donc, il faudra que le gouvernement prenne toutes les précautions pour que ces molécules, que le coût de production ne soit pas assez élevé pour que les Pharmakina rentrent dans ces frais et qu'il soit subventionné parce que nous avons pris la décision que le gouvernement a décidé que les ARV devaient être gratuits. Donc il y a toute une série de mesures qui devaient économiques, politiques, qui devaient changer.
Mais quand même le PNMLS fait des plaidoyers pour que cela puisse arriver.
Absolument. Donc il faudra tout un plaidoyer pour que cela puisse aller de l'avant.
Oui, nous avons espoir qu'il est en ligne. Il peut rester en ligne parce que nous allons bientôt passer à notre bulletin d'information. Même docteur Jean Kabouaou, restez en ligne le temps que nous suivons ce bulletin d'information. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours après ce flash d'information, nous continuons notre émission Parole aux auditeurs. Et Parole aux auditeurs d'aujourd'hui se penche sur le sida, le VIH-sida. Les statistiques de 2008 montrent plus que 42 millions de personnes sont affectées dans le monde, dont 72% vivent en Afrique subsaharienne. La RDC enregistre chaque année environ 162 000 nouveaux cas d'infection de VIH-Sida. En 2008, environ 1 230 000 personnes vivaient avec ce virus et près de 10% de ces personnes atteintes décédaient chaque année. Et pour en parler, nous avons deux questions. Quel regard faites-vous sur le VIH-Sida dans votre milieu? Selon vous, que faut-il faire pour renforcer la lutte contre le VIH-Sida et la prise en charge des personnes atteintes? Pour en parler, nous avons invité Dr Jean Kabouaou, il est chargé de l'appui aux initiatives communautaires du Programme national multisectoriel de lutte contre le VIH-Sida, le PNMLS. Nous avons en ligne Espoir qui nous a appelé de Bukavu. Bonjour Espoir.
Oui, bonjour madame.
Espoir, on vous écoute.
Okay. J'ai une question à poser à notre docteur. Ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui justifie le fait que quand quelqu'un veut émettre un médicament contre le sida, on cherche à tout faire pour éliminer la personne? Là, je donne le cas du feu docteur Luruma. Puisque j'appelle de Bukavu, je sais quand ça ira, j'appelle de Bukavu. Il y a un docteur qui avait commencé à émettre un médicament contre le sida
que ce métier était exécuté dans des conditions-là vraiment tragiques et mystérieuses.
Mm-hmm.
Pour le moment, il y a une autre structure que nous appelons sur le nom de Kavu, RIKUZA. Cette structure travaille sur le VIH-SIDA et se prétend traiter cette maladie et a déjà fourni des exemples. Mais cette association est vraiment combattue par des organisations que je m'abstiens de citer, mais il y a d'autres qui les ont déjà cités là au micro.
Mm-hmm.
Et la question que je pose, c'est pourquoi chercher à éliminer ces gens qui veulent porter vraiment une fierté pour toute la nation congolaise?
Oui, merci beaucoup Espoir. Hein. Le docteur va pouvoir répondre à votre préoccupation concernant ces recherches. Aussi, vous avez dit qu'il y aurait certains chercheurs qui ont fait leurs preuves en soignant le VIH-SIDA. Le docteur va nous donner plus d'informations à ce sujet. Il y a Wilfried qui nous appelle de Kintu. Bonjour Wilfried.
Oui, bonjour.
Oui, Wilfried, on vous écoute.
Ok, moi je voudrais apporter quelques solutions concernant le VIH-SIDA.
Mm-hmm.
Bon, nous savons bien qu'il y a trois principaux moyens pour lutter contre le VIH-SIDA.
Mm-hmm.
Mais les moyens les plus utilisés pour nous jeunes, c'est l'utilisation correcte et systématique du préservatif. Mais à notre grande surprise, nous voyons que les ONG entrant dans ce domaine commence à vendre les préservatifs. Ici chez nous, à Kindu, les jeunes n'utilisent pas les préservatifs d'habitude. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sensibilisés.
Et chez vous, le préservatif coûte combien à Kindu?
Le préservatif, donc on passe à 2 pour 50 francs. Ils doivent aussi changer cette sale habitude de sensibiliser seulement dans les milieux urbains. Ils doivent aussi intensifier les activités de sensibilisation dans les milieux urbains, parce que le SIDA n'a pas de limites. Ce n'est pas seulement ici à Kindu ou bien dans les milieux urbains où il y a les VIH-SIDA. Les VIH-SIDA sont partout.
Oui. Alors pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour renforcer ces sensibilisations?
Non, ils doivent concentrer seulement leurs activités dans les milieux urbains. Tous les financements qu'ils reçoivent, ils intensifient seulement leurs activités ici même en ville, mais les villages aussi existent.
Oui. Merci beaucoup, ici Frédin. Nous allons poser cette question à notre invité, M. Dr. Jean Kabouaou, qui pourra vous donner des éclaircissements par rapport à cela. Docteur, vous êtes en ligne parce qu'à un moment là, vous avez perdu. Docteur, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne, il y a eu coupure brusque, je ne sais pas pourquoi.
Oui, en fait, docteur, il y a des auditeurs qui voulaient avoir plus d'éclaircissements. Il y a par exemple Wilfried qui nous a appelé de Kindu, qui voudrait savoir pourquoi il y a la sensibilisation est concentrée plus dans des milieux, dans les grandes villes et non dans les milieux reculés comme dans nos villages.
Ben, écoutez, je pense que c'est question de résultats. Quand vous faites quelque chose, il faut viser les résultats. Là, nous sommes principalement en milieu urbain parce que c'est plus facile. Il y a une grande concentration de population. Il y a des moyens de contact, de communication. Il y a des partenaires et donc on peut atteindre facilement plus de personnes et espérer avoir des résultats dans le changement de comportement et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est un problème de stratégie. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas en milieu rural. En milieu rural, nous travaillons essentiellement avec d'autres partenaires, les zones de santé, les structures de santé, les ONG qui sont en milieu rural.
Mm-hmm.
Donc, je crois qu'on n'a pas abandonné le milieu rural.
Oui, aussi Espoir qui nous appelait de Bukavu, qui voulait savoir pourquoi est-ce que souvent on ne soutient pas les recherches des Congolais concernant qui ont fait leur preuve, selon lui, dans la guérison des personnes vivant avec le VIH-SIDA.
Ben, je pense que c'est un problème d'information pour ces chercheurs. Ils ne savent pas où toquer et donc ils ne savent pas bénéficier de ce qui est prévu pour la recherche. Dans le financement que nous avons, dans le financement qu'on a, donc on a un volet recherche et on peut appuyer tous ces chercheurs qui viennent avec des protocoles de recherche.
Donc vous pouvez leur donner des adresses, un chercheur par exemple à Bukavu, où est-ce qu'il doit aller toquer?
Oui, effectivement. Donc, il a nos coordonnées. Nous avons une coordination provinciale à Lubumbashi. S'il va sauter là-bas, on va certainement l'orienter.
Oui, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Nous vous restons en ligne. Il y a aussi Joseph qui nous appelle de Moba. Bonjour, Joseph.
Bonjour, madame.
Oui, Joseph, on vous écoute.
Bon, moi, je voulais dire que c'est le problème de sensibilisation.
En fait, la ligne n'est pas très bonne. On va essayer de vous recontacter. Peut-être qu'on pourra vous avoir, on aura une meilleure qualité de son. Mais entre-temps, docteur Jean Kabouaou, qu'est-ce que le PNMRS fait dans le cadre de la sensibilisation dans les églises? Parce qu'il y a des auditeurs qui ont soulevé ce point. Comment ça se passe?
Bien, je vous ai dit que nous avons une composante chargée particulièrement de la société civile, c'est-à-dire les ONG, tant locales, nationales qu'internationales, qui sont dans la lutte contre le VIH/SIDA, ainsi que les églises. Et donc, les églises sont organisées dans une commission interconfessionnelle, où ils ont un comité qui discute tous les problèmes relatifs donc à la lutte contre le VIH/SIDA, que rencontrent les églises et ils ont un plan d'action.
Mmh.
Je vous informe par exemple que l'église catholique avec la conférence épiscopale venait de produire un plan triennal, un plan stratégique triennal et nous avons participé à ce plan, nous avons donné notre appui et nous appuyons donc ce plan. Mmh. Alors il appartient aux autres églises de venir avec des propositions de lutte contre le VIH/SIDA et que nous allons donc encadrer, nous allons donner les conseils et nous allons donner les finances si les propositions qu'ils nous donnent sont éligibles.
Oui.
Voilà donc ce que nous faisons avec les églises.
Oui.
Mais je crois que les églises ont un problème réel de compréhension, d'information qui ne cadre pas avec leur vision,
mm-hmm.
surtout en matière de sexe. Et donc là, je crois que nous n'entrons pas dans la polémique des philosophies. La science reste la science. Le mode de contamination est donné. L'Église doit donner ce qu'il donne. Donc si les Églises pensent qu'ils peuvent promouvoir la bonne fidélité parmi les adeptes de leur Église, ok, donc nous n'avons pas à lancer des polémiques là-dessus.
Oui, il y a aussi notre auditeur, c'est d'être le dernier auditeur pour cette émission. Il s'agit de Joseph, on a pu le recontacter. Bonjour Joseph.
Bonjour madame.
Oui Joseph, on vous écoute.
Bon, moi je voulais juste insister sur le problème de ce qu'ils disent qu'on a sensibilisé. Les gens viennent pour le dépistage. Mais voyant la proportion de taux de prise en charge, elle est vraiment sous-estimée. Les gens peuvent bien venir se faire dépister, mais ils ne sont pas pris en charge. C'est ça le vrai problème.
Mm-hmm.
Au niveau du programme, on pouvait exposer plus les chiffres qu'ils ont auprès des barrières. Comme ça, on aura comment avoir les ARV pour prise en charge de TVV.
Merci beaucoup, Joseph, pour votre participation. Docteur, vous avez suivi la préoccupation de Joseph qui nous a appelé de Kindou.
Oui, Joseph a tout à fait raison.
Bon, bah.
Mais je pense que nous avons la manie de vouloir laisser les problèmes, nos problèmes aux autres. Je crois que, et là, c'est mon travail précisément, donc la prise en charge doit être d'abord communautaire. Hein, il ne faut pas attendre que, je ne sais pas moi, Amo Congo ou bien Médecins sans frontières viennent vous prendre en charge. Donc faites votre dépistage, connaissez votre état sérologique et prenez un comportement conséquent. Et si vous êtes séropositif, je crois que la première prise en charge doit être communautaire. Quand quelqu'un est séropositif, comme l'a dit mon ami de la Hollande là, il doit informer la famille, il doit informer les autres, il doit s'ouvrir, il doit vivre positif. Mais qu'est-ce qui arrive chez nous quand quelqu'un est séropositif? Il s'enferme, il s'auto-stigmatise et donc il reste dans son problème et il en meurt avec.
Oui,
donc,
concernant la
prise en charge doit être d'abord communautaire, doit être individuel, familial, communautaire, avant de voir ce qui vient à l'extérieur. Bien sûr, à notre niveau, nous allons faire les plaidoyers pour avoir le maximum de moyens auprès d'abord de notre gouvernement avant d'aller chercher ailleurs.
Mm-hmm. Oui, concernant la stigmatisation que fait le PNMLS.
Oui, concernant la stigmatisation, le PNMLS, d'abord il y a cette la promulgation de la loi sur laquelle le PNMLS a beaucoup fait.
Mm-hmm.
Et il y a aussi donc tout l'appui qu'on donne à l'UCOP plus, donc l'UCOP, l'Union Congolaise des organisations de personnes, des associations de personnes vivant avec le VIH/SIDA. Et ça c'est une émanation du PNMLS. Et donc avec le PDV elle-même, nous essayons donc de montrer aux autres, à ceux qui sont cachés, que on peut reprendre la vie, on peut continuer à vivre, et avec l'UCOP nous faisons la plaidoirie auprès de tous ceux qui sont encore restés cachés dans la maison.
Merci beaucoup, docteur Jean, pour votre participation à cette émission, et aussi merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés pour participer à cette émission. De ma parole, aux auditeurs va traiter des réfugiés congolais. Près de 90 000 Congolais se sont réfugiés au Congo-Brazzaville suite au récent conflit armé dans le territoire de Dongo à l'Équateur. Comment réagissez-vous face à cette situation? Selon vous, que faut-il faire pour résoudre le problème des réfugiés congolais qui sont dans les pays voisins? Réagissez dès à présent par internet à l'adresse pa@radiocapi.net. Merci à toute l'équipe, parole aux auditeurs, Pierre Lavigi, Maombi Mukomia, aux techniciens, Eddy Marquis, et aussi, sans oublier, Nicole Ngaka pour la supervision, et Titi Poutou. Je vous souhaite une bonne journée en compagnie de Radio Capi.